Nous terminons en soulignant que la matière que nous croyons connaître et qui nous entoure, en réalité, nous ne la connaissons pas et nous ne pourrons sans doute jamais la connaître dans sa profondeur, dans son essence. Ce qui signifie que la matière a d'autres propriétés que celles que nous connaissons dans la vie quotidienne. Et ces propriétés, nous allons y venir. Je dois parler plus fort. Vous ne m'entendez pas ? Un peu plus fort. Nous terminions donc en disant qu'il y a un véritable mystère de la matière aux yeux même des scientifiques. Nous ne parlons pas encore ici de théologie, de spiritualité. Et aux yeux des scientifiques même, cette matière n'apparaît plus comme ayant cette lourdeur, cette opacité que nous connaissons quelquefois et dont l'affluent les matérialistes, c'est-à-dire ceux qui ne voient que la matière, mais sans en voir la profondeur, la résonance et la réceptivité. On pourrait dire que les matérialistes voient la matière comme Cendrillon, mais Cendrillon simplement dans sa cheminée couverte de cendres, et ne voient pas sous la souillon la princesse qui se cache. Et saint Irénée a une phrase magnifique à propos de nous, de notre corps, de notre matière, de l'argile dont nous sommes faits. « Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste. Par l'art de Dieu va être cachée l'argile qui est en toi. Sa main a crié ta substance. Elle te revêtira d'or pur au-dedans et au-dehors. » Et elle te parera si bien que le roi lui-même sera épris de ta beauté. Je vous recommande saint Irénée, c'est un grand poète. Alors quittons maintenant le domaine scientifique qui nous révèle déjà ces choses extraordinaires que nous venons de souligner. Et que dit maintenant l'approche chrétienne, l'approche théologique de la matière? Eh bien, je voudrais souligner trois choses. Il y en a sans doute d'autres encore, mais trois choses importantes. La première, ce n'est qu'une répétition de ce que j'ai dit, c'est que la matière n'est pas inférieure à l'esprit, contrairement à de nombreux préjugés. Elle est simplement différente de lui. Et elle est informée, structurée de l'intérieur, par l'esprit. Et plus particulièrement, et c'est la deuxième chose, parce que les pères de l'Église appellent les logoi, c'est-à-dire les semences du Logos. Nous allons développer ça. Et troisièmement, tout aussi important, c'est que la matière est réceptive aux énergies divines incréées, diffusées par l'Esprit-Saint. Et donc la matière est promise à la transfiguration, à la résurrection. La première chose, ce sont les logoi des créatures. Alors, d'où ça vient cette expression? Eh bien, ça vient au départ de la philosophie grecque. Et qu'est-ce que c'était le logos pour les philosophes grecs? Le logos pour les philosophes grecs est une intelligence, un principe de nature divine qui structure, organise le monde. Il le soutient. Un principe donc qui donne forme, harmonie et sens à toute chose. Donc nous sommes dans la philosophie grecque, mais vous verrez que nous ne sommes pas loin de la théologie chrétienne. Et le logos supérieur de nature divine se distribue dans des logoi, c'est-à-dire le pluriel de logos, des semences dans la création. Et on les appelle chez les stoïciens, par exemple, les logoi spermaticoi, c'est-à-dire les logoi semés dans le créé, qui font venir à l'existence, soutiennent et structurent tous les éléments du créé. Et saint Maxime le Confesseur va reprendre cette pensée de la philosophie grecque et la développer en disant que chaque particule de matière a son petit logos, qui est à la fois sa structure interne, si vous voulez, sa norme, sa loi, et son sens, c'est-à-dire sa finalité, son but. Par exemple, le logos d'une plante n'est pas le logos d'un animal, et de telle plante en particulier n'est pas le logos de telle autre. C'est ce qui fait qu'elle est structurée, par exemple le logos d'un géranium, c'est ce qui fait que le géranium est un géranium et pas un épinard, une carotte ou un chihuahua. Et donc elle réalise, si vous voulez, sa vocation de plante, car chaque élément du créé est à sa place. Ce logos, évidemment, est mystérieux et caché, il est insaisissable. Par exemple, Grégoire de Nice nous dit que par nous-mêmes, c'est-à-dire sans l'aide de l'Esprit-Saint, de la révélation, nous ne pouvons connaître ni le sens, ni la nature du plus petit brin d'herbe. Et tous ces logos multiples, qui est même du logos divin, deuxième personne de la Trinité, sont contenus en lui, parce qu'il est le principe, l'alpha, et la finalité, l'oméga, de toute la création, de tout le créé. Saint Maxime dit, le verbe divin se cache mystérieusement dans les logoi intérieurs des choses créées comme en autant de lettres. C'est comme un alphabet, si vous voulez. La création est un vaste alphabet, et chaque lettre est un logos. Et il y en a plus que... Combien il y en a dans notre alphabet?
26.
Merci. Je confondais avec les dents. Et donc, on peut percevoir tout le créé, selon cette vision théologique forte et profonde, comme une trame sur laquelle chaque élément est à sa place, comme un fil tissé dans une trame. Vous savez, une trame qu'on tisse pour faire un tapis. Et l'ensemble du créé forme le manteau du verbe divin. Et c'est une vision qui est finalement assez proche de celle de saint Irénée quand il dit que le Christ récapitule tout. Tout le créé est contenu dans le Christ, dans le Verbe, et aussi la pensée de saint Paul, la vision, la fameuse grande vision du corps du Christ. Je prends ici un passage de Maxime Heger, dans La Terre comme soi-même, qui écrit « La Terre n'est pas seulement notre demeure à nous humains, mais aussi celle du Logos divin. » De l'atome le plus infime aux galaxies les plus infinies, l'univers est le corps et le temple du Dieu vivant. Selon les pères de l'Église, le Logos n'est pas présent dans le monde par son essence, bien sûr, qui est inaccessible, mais par ses idées, volontés créatrices, les Logoi. Donc, avant même, ici on parle de ce qui se passe dans la création avant même l'incarnation du Verbe. Deuxièmement, tout aussi important, mais distinct, c'est que la théologie et la tradition nous enseignent que la matière est réceptive aux énergies divines. Et ça, nous changeons, si on peut dire, de personne divine. C'est le rôle de l'Esprit-Saint ici. L'Esprit-Saint entre en action et nous avons comme bon guide dans ce pays mystérieux un certain Grégoire Palamas, que vous connaissez, qui s'est opposé à des théologiens occidentaux rationalistes qui se moquaient des hésychastes. Ils disaient, mais vous, les moines hésychastes, vous passez votre journée à regarder votre nombril. Parce que vous savez que dans la position de la prière hésychaste, les moines étaient recroquevillés sur eux-mêmes comme une chrysalide. Et, ou sur le cœur, bien sûr, mais aussi sur le nombril, sur le ventre ou sur le haras. Et saint Grégoire Palamas dit clairement que la matière est transparente à l'esprit, qu'elle est capable de recevoir et de porter les énergies incréées de l'Esprit-Saint. Et d'ailleurs, ne dit-on pas, ne chante-t-on pas dans notre prière, trésor de grâce et donateur de vie qui est partout présent et qui remplit tout. Qui remplit tout, ce n'est pas simplement notre esprit qui le remplit, c'est tout. Toute la matière, tout le créé peut être rempli et capable d'accueillir l'Esprit Saint. Et en tout cas, les énergies divines qui émanent de la divine Trinité par l'Esprit Saint. Cette vision, à nouveau, est proche de saint Paul qui qualifie notre corps de temple de l'Esprit Saint. Et donc, ce n'est pas notre âme seule, notre esprit seul qui sont capables d'accueillir l'Esprit Saint, mais le corps lui-même accueille l'Esprit. Et cette prise de conscience, elle est finalement déjà faite, mais de manière implicite par les évangélistes, quand ils assistent à la transfiguration du Christ sur la montagne. Le corps du Christ et ses vêtements apparaissent lumineux, investis complètement de l'intérieur par les énergies divines. Ce qui fait dire aussi à saint Grégoire Palamas que le Christ ne s'est pas allumé à un moment donné comme on allume une lampe quand on entre dans une pièce, mais qu'il était tout le temps investi, profondément, imprégné des énergies divines, mais que ce sont les yeux des apôtres qui à ce moment-là se sont ouverts. On parlait des yeux pour voir, eh bien, le jour de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean avaient des yeux pour voir le corps transfiguré du Christ. C'est aussi le cas, une autre illustration, des nombreux miracles que nous voyons dans les évangiles, où les corps humains, où les psychismes humains retrouvent leur santé, leur vitalité, et parfois même la vie sous le souffle de l'Esprit Saint communiqué par le Christ. Nous voyons donc que dans la tradition chrétienne, on enseigne que la matière est totalement capable de recevoir la présence divine en elle, avant même l'incarnation du Verbe. Et il est assez passionnant de constater, j'ai trouvé cette citation de Rupert Sheldrake dont je vous parlais, qui est un biologiste qui enseignait à Cambridge, vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui rejoint finalement cette manière de voir, mais lui c'est en pur scientifique qu'il l'énonce, avec d'autres mots, mais vous allez voir comme c'est proche. La vie, écrit-il, implique d'une part un courant énergétique qui peut être perçu comme un aspect du flux énergétique universel. On peut traduire l'énergie de l'Esprit-Saint. Et d'autre part, donc la vie implique d'une part un courant énergétique, et d'autre part un principe formateur qui confère à l'organisme la finalité vers laquelle tendent ses processus vitaux, les logoi. Et il ajoute, la grande question, évidemment, mais ça c'est de la métaphysique, concerne la nature de ce principe formateur. Cette approche nous permet donc de dire que Dieu, Père, Verbe et Esprit, est à la fois transcendant, totalement transcendant, par sa nature qui est insondable, mais qu'il est immanent par sa présence, son action dans le monde. Et donc, surtout, n'isolons pas Dieu dans sa transcendance et ne le confondons pas avec les éléments du monde. Il est à la fois transcendant et immanent. C'est une magnifique antinomie. C'est pourquoi aussi, Dieu qui est invisible et inconnaissable, comme on le dit et on le souligne dans la tradition apophatique, qui procède par négation, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas, puisqu'on ne peut rien dire de Dieu, on ne le connaît pas, on ne sait pas le connaître. Mais Dieu est inconnaissable, mais il est connaissable, il se fait connaître, il veut être connu. À travers notamment les éléments matériels de sa création, je ne parle même pas ici de la révélation. Ceci donc nous conduit à la vision traditionnelle chrétienne d'une matière dynamique, dynamisée de l'intérieur par le Verbe et par l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. Maxime Aiguer, encore lui, écrit « L'univers peut être ainsi vu comme une vaste toile tissée d'énergie, de vibrations, de souffle divin qui la parcourt en tous sens, s'entrelace, s'interpénètre comme autant de fils de vie qui relient les créatures les unes aux autres, rendant le tout interdépendant. » Et Paul Florensky, qui est un philosophe russe du début du XXe, dit « Toute la nature est animée, vivante, dans sa totalité, dans toutes ses parties, tout est relié à tout par des liens mystérieux, tout respire ensemble, l'un par l'autre. » Retenons donc, pour le sujet qui nous occupe, qui est le sujet du sacrement eucharistique, que notre humble matière, en tout cas humble en apparence, peut être et est théophore, c'est-à-dire porteuse de la divinité, du Verbe et de l'Esprit-Saint. Et qu'elle reçoit ainsi un statut, une dignité qui dépasse ce que nous pouvons en appréhender de manière apparente. Et d'ailleurs, comment l'homme et comment nous, qui sommes souvent pris dans la lourdeur d'un corps malade ou souffrant, et qui dans notre expérience immédiate nous heurtons à la résistance des matériaux, à la lourde loi de la gravité, la gravitation universelle, qui fait que si on rate un jeton de l'échelle, on va tomber par terre, comment peut-on imaginer que ce corps, cette matière, est promise à la transfiguration et à la résurrection? Nous commençons, j'espère, entre guillemets, à le comprendre un petit peu. Et Jean Damascène, que vous connaissez certainement, qui a pris la défense des saints Hésychaste au 8e ou 9e siècle, peut écrire cette chose extraordinaire. Je vénère la matière par laquelle m'est advenu le salut comme étant rempli d'énergie divine et de grâce. Extrait de la Défense des images, chapitre 1.
Tu as dit qu'il était défenseur des Hésychastes.
Des icônes.
Ah pardon. Des iconographes.
Des iconographes. Et j'ai dit des Hésychastes. Oui, ah oui, ça c'est Grégoire Palama. Oui. Alors maintenant, franchissons un pas supplémentaire et nous arrivons au mystère du Christ lui-même qui s'incarne. Le Verbe s'incarne dans notre chair. Vous imaginez bien qu'une étape de plus est franchie. Ce n'est pas simplement la matière qui potentiellement est susceptible de recevoir la grâce et les énergies divines et qui est informée par les logos. C'est véritablement le logos lui-même qui entre dans la matière humaine et dans la matière tout court, puisque nous sommes faits des mêmes particules que l'univers qui nous entoure. Et donc ce ne sont plus seulement les logos et les énergies divines qui pénètrent dans la matière, comme une présence secrète, cachée, du Créateur dans la création, mais c'est une des trois personnes divines elle-même qui reçoit un corps humain et qui, dans ce corps, réunit la totalité du monde créé. C'est encore quelque chose qu'on ne saisit pas nécessairement au premier abord, mais la totalité du créé se trouve dans le corps du Verbe incarné. Toute la matière s'y trouve, parce qu'il réunit tout en lui. Et l'image traditionnelle, bien classique et bien parlante, c'est celle du feu qui pénètre le fer. Le feu de la divinité pénétrant le fer de l'humanité et le fer de la matière, et qui le porte à incandescence. Le fer restant le fer, la matière reste la matière, mais elle est transformée, transfigurée de l'intérieur par les énergies divines du Verbe incarné. Et c'est une théophanie qui est totale, définitive. Il ne faut pas penser que le Christ vient dans la matière et, à un moment donné, quitte la matière et s'en retire. C'était une des hérésies qu'on appelait le docétisme. Vous savez, c'est une apparence, au fond. Le Christ ne s'incarne que pour un temps limité et de manière apparente. Mais en réalité, il n'y a pas d'incarnation véritable. Or, ici, c'est le mystère que nous célébrons à l'Ascension. Rappelez-vous ce beau chant, quel est cet homme qui monte? Et les anges s'écartent de stupeur devant ce corps humain, le corps du Christ ressuscité, qui monte dans la vie divine. Et donc la théophanie, c'est-à-dire la pénétration, la manifestation totale de Dieu dans la matière est définitive. Pour toujours. Ce qui veut dire que notre humanité et la matière humaine et la matière du cosmos est pour toujours, à jamais, pour les siècles des siècles, dans la vie divine. Une citation ici d'Olivier Clément. Le Christ, entré par son incarnation dans la matière du monde, et pas seulement dans un corps humain, en vertu de l'unité profonde de la nature, irradiée par sa présence et par les énergies divines, fermez la parenthèse, le Christ, donc, entré par son incarnation dans la matière du monde, s'est uni à celle-ci pour toujours. Le corps eucharistique est celui de Jésus historique, aussi bien que du Christ ressuscité. C'est le corps de l'enfant dans la crèche, le corps souffrant la passion sur la croix, le corps ressuscité et glorifié. Et quand on dit corps, il faut entendre l'humanité entière. Depuis la résurrection et l'ascension, cette humanité de Dieu englobe le monde et le transfigure secrètement. Ça, c'est très important. L'humanité de Dieu transfigure le monde secrètement. Déjà, cependant, le corps historique du Christ, tout en se laissant par folie d'amour contenir dans un point de l'espace, dans un bref instant du temps, contenait en réalité l'espace et le temps, car il n'était pas le corps d'un individu déchu qui brise la nature humaine pour se l'approprier, mais le corps d'une personne divine qui assumait cette nature et tout l'univers pour les offrir. C'est vraiment une réalité bouleversante et mystérieuse que celle de la pénétration de Dieu dans l'intérieur de la matière et de cette transformation alchimique comme celle du fer par le feu. Et ces réalités, dans la tradition chrétienne, portent les noms que nous connaissons bien, transfiguration, résurrection, déification. Très vaste sujet autour duquel on n'arrête pas de tourner, ou dans lequel nous n'arrêtons pas d'entrer, que je ne développerai pas ici, bien sûr, parce que revenons un peu plus près de l'Eucharistie. Alors, pour revenir, nous approcher encore un peu de l'Eucharistie, il faut dire quelques mots du sacrement et de ce qu'est un sacrement dans sa profondeur et sa matérialité. En résumé, si on veut très fort résumer, qu'est-ce qu'un sacrement, en quelques mots? On pourrait dire que ce sont des ponts, établis par le Christ qui lui-même est appelé le grand pontife. Vous savez ce que c'est? Le pontife, c'est celui, littéralement, qui établit des ponts. Celui qui fait les ponts. Et il fait les ponts entre quoi? Entre le crié et l'incrié. Le Christ unit le crié et l'incrié dans sa personne. Et les sacrements sont des petits ponts, si vous voulez, instaurés par le grand pont, le grand pontife. Et les sacrements unissent ces deux réalités du crié et de l'incrié dans une humble matière, l'eau, l'huile, le pain, le vin, par l'action de l'Esprit-Saint et les paroles qui l'accompagnent. Alors, ces éléments matériels, maintenant vous le comprendrez, puisqu'on en a longuement évoqué, sont remplis d'énergie divine et communiquent à l'être humain dans l'eau sanctifiée du baptême, dans l'huile d'onction, dans le pain, dans le vin consacré, les énergies divines déifiantes qu'ils contiennent. Vous voyez, ces éléments matériels, l'huile, l'eau, le pain, le vin, etc., sont comme des buvards qui boivent les énergies divines, et à supposer évidemment qu'on mange les buvards, qui nous les restituent. Et ces énergies divines se diffusent en nous à travers les sacrements. Et Alexandre Schmemann écrit « Le sacrement est d'abord perçu comme une révélation sur la nature véritable du créé. » C'est une révélation sur la nature véritable du créé, qui, bien qu'étant ce monde tel que nous le connaissons, et tout déchu qu'il soit, n'en reste pas moins le monde de Dieu, aspirant à être sauvé, racheté et transfiguré. Le sacrement révèle avant tout le caractère mystérieux de la création, son caractère sacramentel, au sens premier du terme. Et si l'eau peut devenir le bain de la régénération baptismale, si notre nourriture terrestre peut devenir devenir communion au corps et au sang du Christ, si l'huile est faite onction du Saint-Esprit, bref, si toutes les choses de ce monde peuvent être perçues, manifestées, et reçu comme un don de Dieu et participation à la vie nouvelle, c'est parce que, dès l'origine, l'univers crié est destiné et appelé à l'accomplissement de l'économie de Dieu. Que Dieu soit tout en tout, écrit saint Paul. Dans la divine Eucharistie, nous communions au corps et au sang de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire à la vie même de sa personne divino-humaine. Les énergies incréées contenues dans le pain et le vin sanctifiées par la venue en plénitude de l'Esprit-Saint. Ne pensons pas que l'Esprit envoie une petite parcelle de lui-même, il descend en plénitude sur les dons, sur l'autel. Dans ces éléments matériels, humblement matériels, qui constituent la base de notre nourriture, le pain, le vin, le pain. En mangeant le pain et en buvant le vin consacré, lors de l'épiclèse, nous communions donc à la vie même du Christ à travers la matière, non pas de manière symbolique, mais réelle, puisque je viens de vous le rappeler, le Christ est entré dans la matière totale. La matière est totalement investie, imprégnée des énergies divines, par l'incarnation et par la venue de l'Esprit-Saint. Et donc, nous sommes unis à la divine Trinité, totalement présente, dans chacune des paroles et des actes du Christ. Nous communions, comme on le dit quelque part, au feu de la divinité. Ce n'est pas du tout un symbole, c'est une réalité. C'est pourquoi l'Église nous rappelle aussi qu'il faut accomplir cet acte sacré et sacramentel avec la pleine conscience de son caractère bouleversant. Et non y participer de manière distraite ou par habitude ou inconsciemment. Ce qu'on appelle, dans cette expression qui en a choqué plus d'un, communier pour sa condamnation. Il ne s'agit évidemment pas d'une condamnation juridique et de dire vous serez voué à l'enfer parce que vous communiez distraitement. Simplement, on se place en dehors de ce courant énergétique par notre inconscience. Parce que comme nous le voyons dans les miracles, il y a une synergie entre Dieu et l'homme. Dieu ne fait pas tout le travail. La volonté de l'homme, la conscience de l'homme, doit s'accorder à la volonté divine pour que, je dirais, la précipitation, comme on dit en chimie, le précipité, comme on dit, la réaction chimique se déclenche. Il faut donc non seulement que Dieu nous donne son énergie et sa grâce, mais que nous soyons conscients et désireux de le recevoir. Nous voyons parfois dans les évangiles, quelqu'un qui dit, je crois que c'est ça, « Viens en aide à mon peu de foi » où on demande un miracle au Christ, mais on sent que la personne n'y croit pas vraiment. Et le Christ dit « Je ne peux rien faire ». Et d'ailleurs, à Capharnaüm et à une autre Bethsaïda, je crois, il dit « Vous ne m'avez pas reçu, je n'ai rien pu faire chez vous, par manque de foi ». Et donc notre foi, notre conscience et notre confiance est fondamentale dans l'acte sacramentel. Ce n'est pas un effet magique, il peut s'effacer, il peut même ne pas nous parvenir du tout, si nous ne sommes pas ouverts, si nous ne désirons pas cette union à l'incréé que nous offre le sacrement. Et donc le désir d'être uni à Dieu est fondamental. Et donc nous avons dans le sacrement à la fois un côté objectif et un côté subjectif. Le côté objectif étant l'énergie divine qu'il contient, et le côté subjectif étant notre réceptivité à nous, à cette énergie et à la force du sacrement, à la vie divine. Et l'Église nous éveille aussi à une autre chose, c'est à la conscience du don immense que nous recevons malgré notre indignité, notre séparation, notre éloignement. C'est pour ça qu'avant la communion, nous disons, comme un des, je crois, le centurion, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Et quand nous avons vu tout à l'heure la force agissante des paroles divines, eh bien, il suffit qu'il dise une parole et je serai guéri. Et quand nous disons « Je crois et je confesse que tu es le Christ, fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs dont je suis le premier », il ne s'agit pas d'une modestie déplacée ou d'une fausse humilité, mais de la conscience réelle qui me sépare de Dieu, vu mon état de pécheur et d'éloignement, par rapport à l'immensité du don qui m'est fait. Ce don, on le dit quelque part, je n'ai plus trouvé l'endroit exact, mais on le dit dans la liturgie, de participer à la divinité de celui qui a participé à notre humanité. C'était en quel au moment de la consécration, oui. Dans le rite de consécration des... Enfin, pas de consécration, de préparation des saints dons, on dit, rends-moi digne de participer à la divinité de celui qui a daigné participer à notre humanité. C'est magnifique. Alors, le mystère de l'union divino-humaine, est-ce que nous avons conscience des effets de la communion eucharistique, c'est-à-dire de la réception du pain substantiel? Il m'arrive souvent, et peut-être ça vous arrive aussi, de pratiquer la communion de manière mécanique, par habitude, avec distraction. On fait ça depuis l'enfance et on y va. Alors, je trouve qu'il est bon, et c'est ce que je vais faire ici, de nous remémorer les paroles de nos pères sur l'effet de la communion eucharistique. À la fois l'effet sur notre être intérieur, ce qui s'accomplit en nous, et ce qui s'accomplit autour de nous. D'abord, c'est une transformation, bien entendu, cette transformation qui concerne notre être intérieur. Voici ce qu'en disent les pères. Les pères qui sont, je vous l'ai déjà dit, mais il faut le répéter, bien éloignés de toute conception symbolique de l'Eucharistie. Conception symbolique qui a cours dans certaines parties de l'Église et qui a cours certainement à notre époque. Il s'agit pour eux d'une communion réelle, d'une communion effective, bouleversante à la chair et au sang de notre Sauveur. Voici ce qu'est écrit un saint que je ne connais pas spécialement, qui s'appelle Siméon Métaphraste. Je ne sais pas d'où il sort. Et il est cité par le père Alphonse qui dit, donc ce n'est pas le père Alphonse, c'est le saint en question, dit, « Toi, il s'adresse au Christ, toi qui m'as donné ta chair en nourriture, glisse-toi dans mes membres, dans toutes mes articulations, dans mes reins, dans mon cœur, illumine mes cinq sens. » Maxime le Confesseur dit, « L'Eucharistie transforme les fidèles en elle-même. » Ainsi, le corps élevé par Dieu à l'immortalité, donc le corps du Christ, une fois introduit dans le nôtre, le change et le transforme tout entier en sa propre substance. Est-ce qu'on a conscience de ça? C'est énorme. Et un autre texte, c'est Saint Siméon, le nouveau théologien, qui est un grand mystique, comme vous le savez, écrit « Cette chair immaculée que nous recevons à la communion, il nous la donne en nourriture, et lorsque nous la mangeons, nous avons en nous tout entier le Dieu incarné. Il est de manière incorporelle dans notre corps, amalgamé à notre essence et à notre nature de manière inexprimable. Et il nous divinise, puisque nous sommes incorporés à lui, devenus la chair de sa chair et les os de ses os. Ce pain si petit, cette modeste parcelle est divinisée et devient tout entière pareille au pain qui descend du ciel et qui est Dieu véritable, pain et breuvage de vie immortelle. Il ne paraît être qu'un pain ordinaire à ceux qui ne sont pas allés au-delà de la sensation, au-delà des apparences. Mais dans l'ordre spirituel, c'est une lumière impossible à contenir et à approcher. « Tu me rends lumière, dit-il au Christ, moi qui auparavant étais plongé dans les ténèbres, et tu me rends beau corporellement et spirituellement. Tu me baignes dans un éclat d'immortalité et je suis dans la stupeur. Je brûle du désir de t'adorer. Communion à un corps divinisé comme à Dieu lui-même, je deviens moi aussi Dieu dans cette union inexprimable. Vois quel mystère. » T'embrasser, te voir, te manger, te posséder dans mon cœur, ô Christ, Comment en suis-je jugé digne? Comment ne suis-je pas consumé, mais partagé entre la joie et la crainte, et chantant au Christ ton immense amour des hommes? Nous devenons donc par la communion au corps et au sang du Christ, co-sanguins ou consanguins au Christ. C'est comme une transfusion sanguine, littéralement. Nous sommes incorporés à lui comme il est à nous. Nous sommes greffés, et saint Paul dira, nous sommes devenus une seule plante avec lui, comme une greffe. Reprenons ce que je disais au départ, si l'homme devient ce qu'il mange, disait le père Alphonse. Alors, quand je mange la chair du Christ avec la conscience totale de ce que je fais, avec la confiance en sa promesse, avec le désir d'être uni à lui, alors je deviens moi aussi Christ. Je l'accueille réellement en moi, au plus profond de ma chair. Je suis transformé en lui et je commence à vivre de lui. Voilà pour les effets personnels, je dirais, internes. Autre effet de la divine Eucharistie sur la communauté ecclésiale. Je ne sais pas à quelle heure je dois m'arrêter. Ce n'est pas seulement mon être personnel qui est transformé par la divine Eucharistie, mais nous devenons aussi membres les uns des autres. C'est le mystère de l'Église. L'Eucharistie renouvelle, approfondit la consubstantialité du genre humain. Tous forment un seul être christique dans l'Église. Et je vous cite ici quelques pères de l'Église qui ont exprimé ça mieux que moi. Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous formons un seul corps, dit saint Paul. Jean Chrysostome, des uns et des autres, le Christ fait un seul corps. Cyril d'Alexandrie, divisé en personnalités bien tranchées, nous sommes comme fondus en un seul corps dans le Christ, en nous nourrissant de son corps vivifiant. Et saint Maxime, je termine en tout cas cette partie-ci par là. Nul n'est aucunement séparé de la communauté. Tous se fondent, pour ainsi dire, les uns dans les autres par la force simple et indivisible de la foi. Une troisième dimension, c'est la dimension fraternelle. La dimension que je viens d'évoquer, elle est déjà fraternelle, mais elle est avant tout, disons, ecclésiale. Et la dimension fraternelle, elle porte un autre nom, c'est le sacrement du frère. Vous savez qu'il y a le sacrement de l'autel, dont nous parlons, et il y a le sacrement du frère, tout aussi important. Et je cite ici Olivier Clément dans Source. Le sacrement de l'autel se répercute et se dilate dans le sacrement du frère, écrit-il. Nul ne peut recevoir dans l'Eucharistie le pardon et la paix de Dieu sans devenir un homme de pardon et de paix. Nul ne peut partager un banquet eucharistique sans devenir un homme de partage. Dans l'Église des trois premiers siècles, beaucoup de fidèles apportaient au rassemblement eucharistique non seulement le pain et le vin nécessaires à les célébrations, mais les richesses matérielles qu'ils voulaient partager. L'Eucharistie détermine non seulement l'être de l'Église et la communion des chrétiens entre eux, mais leur manière d'être dans le monde, qui doit être de partage, de service, de tension toujours renouvelée vers la communion des hommes et la transfiguration de la terre entière. Car chacun est appelé à faire Eucharistie en toute chose. Cette attitude fraternelle qui est profondément liée à la communion eucharistique et à l'Église était effectivement celle des premières communautés chrétiennes. C'est celle qu'on trouve dans les écrits de saint Paul et dans les actes des apôtres. Ils persévéraient, je cite les actes, ils persévéraient, les apôtres et les disciples, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Et Jean Chrysostome a un petit texte magnifique là-dessus, que je ne résiste pas au plaisir de vous citer. Ça va, je suis dans les temps. Il écrit ceci. Tu veux honorer le corps du Sauveur. Ne le dédaigne pas quand il est nu. Ne l'honore pas à l'église avec des vêtements de soie, tandis que tu le délaisses dehors, transi de froid, et qu'il est nu. Celui qui a dit « Ceci est mon corps » a dit aussi « Vous m'avez vu avoir faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. Ce que vous n'avez pas fait à l'un des plus humbles, c'est à moi que vous l'avez refusé. Honore-le donc en partageant ta fortune avec les pauvres, car il faut à Dieu non des calices d'or, mais des âmes d'or. » Voilà, il y aurait encore beaucoup à dire et surtout à vivre, mais ça c'est devant nous, à propos de l'Eucharistie. Et je passe à la toute dernière partie, qui n'est pas longue, mais qui est essentielle aussi. Le troisième aspect du pain substantiel, le premier, je vous rappelle, étant la parole divine, le second étant l'Eucharistie, communion au corps et au sang, et aux énergies divines. Le troisième, c'est le pain substantiel de la présence divine en nous. Et nous rejoignons ici, évidemment, je vais parler quelque peu, mais très peu, de la prière. Nous rejoignons ici ce que nous appelons la prière nourriture, ce que Mgr Jean appelle la prière nourriture, qu'il oppose, c'est un autre type de prière, à la prière respiration, la prière nourriture. Je vous cite Mgr Jean, « Dieu est l'unique nourriture de notre esprit. Il ne se communique à nous que par la prière. » Ceci dit, on peut nuancer, puisqu'on vient de voir qu'il se communique à nous dans la matière, et en particulier dans la matière eucharistique, les sacrements, la parole aussi. Ni livre, ni contact, ni pensée, ni sentiment, ni ce qui appartient à la culture, à la civilisation, à la religion, ne nourrit ce qui est divin en nous. Seul le divin nourrit le divin. On se demande parfois pourquoi le Christ passait ses nuits en prière, parce qu'il était esprit, âme et corps. Par les aliments, il nourrissait son corps, par la contemplation des fleurs, la conversation avec les apôtres, l'amitié, il nourrissait son âme, et par la prière, il nourrissait son esprit. Il priait, non par besoin de demander quoi que ce soit à son Père, lui qui avait tout, mais pour nourrir son esprit. Car sans prière, l'esprit s'étiole et meurt. Le corps vit, l'âme se meut, mais l'esprit est mort. Elle est, la prière, la nourriture indispensable, vitale. Et le but de notre vie chrétienne n'est-il pas justement d'entrer en relation intime et forte avec Dieu, avec la divine Trinité ? N'est-il pas qu'il devienne un autre moi-même et que moi, je devienne lui? Je vis de la vie de Dieu si je me laisse guider, inspirer et expirer par lui.
Tu peux dire en quoi il diffère cette prière de la prière respiration?
La prière respiration, il la lie plus à la pratique de la prière hésychaste. C'est avec l'expiration du souffle, l'inspiration, l'expiration du souffle. Donc c'est une prière qui est calquée sur la respiration, comme d'ailleurs dans d'autres grandes traditions, hein, dans la tradition de la méditation, le bouddhisme et d'autres, la méditation est, comment dire, je ne vais pas dire à cheval, mais mise sur l'expiration et l'inspiration. Et cette prière hésychaste se met justement profondément dans cette grande tradition de toute l'humanité, qui est la conscience que l'expire et l'inspire renouvelle notre être intérieur en relation avec quelqu'un qui nous dépasse, ou quelque chose qui nous dépasse, parce que dans toutes les traditions, on ne parle pas de Dieu de manière explicite. Voilà. Alors, Je prends ici un morceau du dialogue d'Amba Chenouda avec Alphonse et Rachel. Alors, dit Amba Chenouda, vivre, c'est le Christ, dit saint Paul. Toute notre vie se nourrit de sa présence. La présence divine est notre nourriture essentielle. Toute notre vie se nourrit de sa présence et devient une célébration continuelle, une liturgie. Alors, toute la vie est le pain que nous mangeons. Dieu nous aime et s'offre à nous d'instant en instant. Il est notre véritable nourriture, que ce soit sous forme de prière, de méditation, de réunion de travail ou de tous les menus détails qui cuisent notre pain quotidien. En réalité, nous ne pouvons vivre d'autre chose que d'amour, comme le ruisseau ne peut vivre que de sa source. Si nous demeurons dans cet état de réceptivité, le Père qui est notre source, nous donne de moment en moment le meilleur pour nous. C'est notre confiance, notre regard de foi qui transforme tout, comme le pain ordinaire sur l'autel se transforme en pain extraordinaire de la présence divine. Cette relation, cette présence intime qui peut nous accompagner si nous en sommes conscients et si nous prions à chaque instant, elle est magnifiquement illustrée par la fameuse prière de saint Patrick que vous connaissez tous. Et avant, on terminera en la lisant, vous la trouverez dans les dernières pages que je vous ai distribuées. Et avant de la lire ensemble, je voudrais simplement terminer par un petit texte de Jean-Yves Leloup qui nous rappelle que le réveil à une autre dimension de notre être, l'éveil de notre personne qui entre dans une relation d'amour trinitaire, qui dit non pas toi, non pas moi, mais toi. Et ça, c'est la présence divine qui est en nous. Voilà le texte. Qu'est-ce qui peut nourrir en nous cet éveil à une autre dimension de l'être? Le silence, sans doute, la prière, la contemplation. Yeshua va donner quelques précisions. C'est la présence même de « je suis » évoquée et invoquée en nous-mêmes qui est nourriture, pain de vie, l'apaisement de notre faim, la simple présence de « je suis ». Il n'y a que l'être qui puisse nourrir notre être. L'être que nous n'avons pas, que nous ne sommes pas, mais que nous sommes capables d'accueillir afin que nous soyons, nous aussi, « je suis ». La tradition hésychaste dira que le nom, avec un grand N, celui qu'il s'agit de sanctifier et d'incarner, est vraiment une nourriture. Et que c'est l'invocation de ce nom présent dans le nom même de Yeshua, qui, comme vous le savez, contient les lettres Yod, E, Vav, V, je suis. C'est la présence de ce nom de Yeshua qui nourrit en nous la vitalité la plus profonde et nous délivre de notre famine essentielle, c'est-à-dire de notre manque à être. Voilà, je vous invite à, je ne sais pas si vous avez la page à la fin, à nous lever et à dire la prière de saint Patrick. On va la dire simplement en la récitant parce qu'il y a un chant, mais il faudrait la partie. Vous l'avez ? Christ devant moi,
Christ derrière moi, Christ sur moi, Christ sur moi, Christ en moi et à mes côtés, Christ autour et alentour, Christ à la gauche, Christ à la droite, Christ avec moi le matin, et avec moi le soir, Christ en chaque être qui pensera à moi, Christ sur chaque être qui parlera à moi. Christ sur chaque regard qui se posera sur moi, Christ dans chaque oreille qui m'écoutera.
Et pour terminer tout à fait, je vous propose une prière. Je la retrouve, voilà. Faire passer. Qui en fait Si nous prenons cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel », elle peut être développée dans de multiples harmoniques dont je vous en ai mis quelques-unes ici qui peuvent servir de prière, qui forme de prière. Tout le monde l'a reçu ? Évidemment, cette prière n'épuise pas toutes les possibilités. Hein. C'est une suggestion parmi d'autres. Père très bon,
Présence. Ô notre Père céleste, miséricordieux, qui